Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans la suite de nos sermons sur Abraham, je veux revenir sur l'épisode de l'enlèvement de Sarah, et cette fois-ci vous faire admirer non pas la conduite d'Abraham, mais celle de Sarah. Car il faut reconnaître que si la décision d'Abraham, et surtout l'analyse qu'il a faite, est d'une parfaite rigueur logique, cela est bien troublant pour une femme, déjà pour tout homme, et à plus forte raison pour une épouse. Pour montrer la grandeur de la confiance de Sarah, il faut remonter très haut à la source de toute raison, à la source même de toute lumière, et c'est ce que Noël nous a fait méditer, contempler. En effet, si à la messe de minuit nous avons contemplé la naissance du Fils de Dieu dans la crèche, si à la messe de l'aurore nous avons contemplé les bergers qui se laissent guider par la lumière de Dieu, à la messe du jour, nous avons contemplé le Verbe, avec l'évangile de Saint Jean, le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et il était la lumière qui vient au milieu des hommes. Il était le Verbe, ou il est le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire la parole. En français, le mot Verbe a pris un sens dérivé, le verbe être, le verbe avoir, etc. En réalité, en latin, verbum veut dire la parole. Il était la parole. C'est-à-dire la sagesse du Père, l'expression, exprimée dans une parole donc, une parole infinie, une parole divine, une parole unique et tellement riche qu'elle est infinie et qu'elle se suffit à soi-même. Le verbe est l'expression de la parfaite sagesse du Père. Je ne vais pas vous expliquer le mystère de la Sainte Trinité, je réserverai cela pour une autre occasion, et je pense avoir déjà fait des sermons là-dessus, il suffit de chercher sur le site. Ce que je veux vous montrer avec l'Église, c'est que le Verbe, parce qu'il est la parole, est en même temps lumière. Il est lumière pour tout homme venant en ce monde. C'est-à-dire que non seulement nous contemplons le Verbe dans la foi, non seulement nous l'aimons dans la charité, mais également il éclaire notre route humaine, pour nous guider jusqu'à lui dans l'éternité bienheureuse. Alors aussitôt se pose la question, comment recevons-nous cette lumière qui vient de Dieu ? Saint Thomas d'Aquin insiste à temps et presque à contre-temps pour nous dire que cette lumière est reçue par la raison. Et comme aujourd'hui, la raison est presque niée, en tout cas méprisée, aveuglée, mise dans le brouillard, le Concile Vatican I, inspiré par le Saint-Esprit, rappelle que nous connaissons Dieu d'abord par la raison. Il n'y a plus à discuter, c'est un dogme de foi. Bien sûr, quand il s'agit de la foi, la raison est éclairée par la foi, mais elle reste une raison surélevée, une raison éclairée, mais une raison humaine. Enfin, bien évidemment, à un niveau supérieur, l'esprit humain est éclairé par l'Esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je vous en parlerai à la fin de ce sermon. Mais allons plus loin pour voir comment Dieu éclaire la route. Lorsque Dieu s'adresse à la Sainte Famille, dans laquelle la Sainte Vierge est la plus parfaite de toutes les créatures, reine du ciel et de la terre, ce n'est cependant pas à la Sainte Vierge que l'ange s'adresse pour la fuite en Égypte, c'est à Saint Joseph. Parce que Saint Joseph est le chef de la famille, il est le chef de la femme, Cette expression se trouve très souvent dans les Pères de l'Église à propos d'Adam, et puis chez saint Paul à propos du Christ et du mariage. Dieu dit donc à saint Joseph, « Prends l'enfant et sa mère et pars en Égypte. » Et c'est encore à saint Joseph que l'ange s'adressera lorsqu'il faudra rentrer en Palestine par une autre voie que celle de Jérusalem. Dans son Église, Dieu transmet la lumière exclusivement par des hommes. C'est pourquoi il est très grave qu'on veuille aujourd'hui intégrer les femmes dans le gouvernement de l'Église, non pas que les femmes n'aient pas de sagesse, mais Dieu leur interdit de gouverner, et saint Paul va plus loin, il leur interdit même de prendre la parole en public dans l'Église, parce que la fonction de la femme, c'est de faire mûrir ce qu'elle reçoit de l'homme. Comme le dit un prêtre, la femme fait mûrir dans son amour le sacrifice que son mari lui a déterminé. Et pour revenir à l'origine de la Genèse, la femme a été tirée d'une côte d'Adam. J'aurais pu, dès les premiers commentaires sur la Genèse, vous parler du rapport entre l'homme et la femme, mais étant donné le féminisme qui est l'air que nous respirons tous, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, ce qui est catastrophique, je me suis dit qu'il faudrait que j'attende une meilleure occasion pour en parler. Et cette occasion, elle est double aujourd'hui. C'est à la fois l'enlèvement de Sarah, qui fait confiance, une confiance absolue, totale, dans la raison d'Abraham, son époux, et en même temps, Noël, qui nous donne la source la plus élevée de cette lumière qui atteint l'homme et la femme, qui guide, qui éclaire l'homme et la femme à travers l'homme. Il ne s'agit pas ici du rapport de la femme avec Dieu, car ce rapport est direct dans la charité. Il s'agit de la voie qu'elle doit suivre pour y arriver. Si nous prenons l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une intimité très grande avec Dieu, une intimité très simple, mais elle avait pour son Père une admiration sans borne. Donc, faites bien attention aux paroles que je prononce, aux mots que j'ai choisis, parce que sur un sujet aussi embrumé et même détourné par le démon, j'ai fait attention à bien choisir mes mots. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas du rapport de la femme avec Dieu, qui se fait à travers les vertus théologales, mais de la voie que la femme doit suivre pour arriver à Dieu, et elle passe par l'homme. Un pays très chrétien comme la France, non seulement avait déterminé que seuls les hommes pouvaient régner, à l'imitation du gouvernement de l'Église, mais pour s'assurer que aucune donnée trop sensible, aucune influence trop sensible ne vienne intervenir dans le gouvernement du royaume, la France avait sagement exclu les femmes même de la transmission du trône. Vous me direz qu'il y eut des régentes, dont la plus noble et la meilleure est sans conteste Blanche de Castille, mais justement, les régentes n'étaient pas reines. Elles préservaient le pays plus qu'elles le gouvernaient. Une régente ne gouverne pas, elle maintient le pays pour son fils, le roi. Quant à la régence d'Anne d'Autriche pour Louis XIII, mieux vaut ne pas en parler, c'est une période tellement troublée qu'elle ne peut absolument pas nous servir de modèle. Donc, la lumière vient du Verbe pour éclairer le monde, et que va faire Satan, bien entendu? Il va essayer d'obscurcir la lumière. Il ne peut pas s'en prendre directement au Verbe, qui est hors d'atteinte. Donc, il va s'en prendre à la lumière, et le seul moyen pour lui, c'est d'enténébrer les hommes, parce qu'il ne peut pas enténébrer la lumière elle-même. il peut enténébrer les hommes. Alors il a essayé d'abord les hérésies, mais les hérésies sont un hommage à la vérité, parce que si ce n'est pas ceci, c'est son contraire, si ce n'est pas le contraire, c'est ceci. Ce qui est bien la preuve que si on se dispute, c'est qu'il y a une vérité. Alors plus tard, au XIVe siècle, il a inventé ce qu'on appelle le nominalisme, c'est-à-dire que par la bouche d'un moine, hélas d'un moine, il a déclaré que les mots n'avaient pas de sens réel. Et puis il a soufflé sur cette première erreur au point que des révoltés du XVIIIe siècle ont osé s'intituler philosophes pour dire qu'il n'y avait pas de vérité et qu'on ne pouvait pas connaître la vérité. Ils ont enseigné le relativisme et toutes choses semblables. Et puis après cela, il a inventé les images. Les images indépendantes de la pensée. Je ne parle pas des images qui soutiennent la pensée. On dit souvent qu'un simple croquis vaut mieux qu'une longue explication. Et puis un enfant commence à connaître sa mère par son sourire. Non, je parle de l'image qui est déconnectée de la pensée. L'image est simplement pour le plaisir des yeux. Toute la télévision, les vidéos, Internet, je vous en supplie, mes bien chers frères, coupez-vous de toutes ces images, coupez-vous de tous ces films. Ils rendent l'esprit obèse. Non, pas l'esprit, il faut que je sois précis. Ils rendent le cerveau obèse, et du coup, ils enténèbrent l'esprit. Et puis il y a eu alors le coup de génie du démon, Satan, qu'a été le féminisme. Le féminisme tue la transmission de la sagesse divine au monde. C'est pas seulement que les femmes soient indépendantes, c'est surtout que si la femme est l'égale de l'homme, il n'y a plus d'homme. La femme moderne aurait honte d'aller chercher la sagesse en dehors d'elle-même, d'aller chercher un guide pour sa vie en dehors d'elle-même. Jusqu'en 1958, les femmes n'avaient même pas le droit de vote, et depuis, en quelques dizaines d'années, on arrive à ceci que dans les conseils municipaux, même des petites communes comme à Jeux-les-Bois, la parité homme-femme est exigée, et pas n'importe quelle parité, parce qu'il faut un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, parce que si on mettait toutes les femmes en queue de liste, il y en a beaucoup qui ne seraient pas élues. Et inutile de vous dire que le must, c'est lorsqu'on a une femme, un homme, une femme, un homme. Alors c'est pour ça que je ne vote plus. Dans les grandes entreprises du CAC 40, c'est encore plus fort. Comme les conseils d'administration hésitaient à avoir autant de femmes que d'hommes, et que la loi n'était pas appliquée, alors une nouvelle loi est venue rendre nulle toutes les décisions des conseils d'administration qui ne sont pas composées à parité d'hommes et de femmes. Si je vous fais ce sermon, c'est parce que, de plus en plus, nous avons parmi les fidèles des femmes qui n'ont pas d'hommes, qui n'ont pas de mari, qui souvent n'ont pas eu de père, ou un père qui n'a pas pu exercer sa paternité. On voit des désastres de femmes qui, malgré leur bonne volonté, car évidemment, toutes les femmes ne sont pas féministes, même si elles sont prises dans le courant du féminisme. Alors que doit faire une femme aujourd'hui? Tout d'abord, la femme mariée, qu'elle se rappelle que son oui, le jour du mariage, exprimait la confiance qu'elle mettait en son homme. Mesdames, si vous avez un homme en lequel vous pouvez avoir confiance, alors renouvelez votre oui. Et votre oui, c'est de faire comme Sarah, qui n'a pas traité son mari de fou, qui ne lui a pas dit qu'il aurait pu remonter vers le nord dans sa famille plutôt que de descendre chez ses idolâtres d'Égyptiens qui allaient l'enlever. Elle ne savait peut-être pas pourquoi Abraham avait raison, mais elle savait que Abraham avait raison. D'une façon générale, maintenant, je m'adresse à toutes les femmes. Commencez par reconnaître vos limites. Il n'y a aucune honte à reconnaître ses limites. Au contraire, c'est un acte d'humilité. Nous devons tous reconnaître nos limites. Moi-même, prêtre qui vous parle, je dois reconnaître mes limites qui sont les limites d'un prêtre car je ne suis pas évêque. L'homme doit reconnaître ses limites qui sont celles d'un administrateur des œuvres de Dieu. Et la femme doit reconnaître sa limite qui est non pas de déterminer ce qui est sage pour guider sa vie, sa voix, mais de faire mûrir les dons que Dieu lui transmet par l'homme. Lorsque vous aurez reconnu vos limites, mesdames, qui, hélas, n'avez pas, quelles qu'en soient les raisons, que ce soit de votre faute ou de la faute du mari, que ce soit la faute de personne, peu importe. Mesdames, et il ne faut pas revenir sur le passé. Trop souvent, les femmes blessées justement par l'absence de l'homme reviennent sur le passé. Ça ne sert à rien. Je sais qu'il a été pénible pour beaucoup. Je sais qu'il y a eu des blessures pour beaucoup. Quelquefois, les hommes vous paraissent insensibles parce qu'ils n'écoutent pas le récit de vos blessures passées. Mais c'est pour votre bien. Cela ne sert à rien de les répéter qu'à de nouveau ouvrir la plaie. Il n'est pas bon de se brûler une deuxième fois quand on a été brûlé une première fois. Les choses sont comme elles sont, mesdames, et c'est comme elles sont que le bon Dieu veut les prendre pour vous sanctifier et vous mener au ciel. Y compris avec les enfants que vous avez et que vous êtes seuls à éduquer. Lorsque vous aurez reconnu vos faiblesses, vos limites, vous aurez fait la moitié du chemin. Et lorsque vous avez la chance, la grâce d'avoir un frère qui soit un homme, un grand-père qui soit un homme, voire des amies femmes qui, ayant elles-mêmes un homme, un mari qui est un homme, vous transmettent le langage de la raison qu'elles ont reçu de lui, car il n'appartient pas à des amis masculins de vous donner directement des conseils, si ce n'est de très loin. Alors profitez-en. Quant au prêtre, il ne peut pas vous dire grand-chose, car il n'est ni votre mari, ni votre père. Il est un père spirituel, certes, mais il n'est pas votre père, selon la chair. Ne lui demandez pas ce qu'il n'est pas chargé de vous transmettre. Au contraire, écoutez soigneusement et mettez en œuvre ce qu'il est chargé de vous transmettre. C'est peu, mais ce peu-là suffit pour guider une vie. Bien sûr, vous écouterez les prêtres qui transmettent la lumière. Vous n'écouterez pas les prêtres qui enténèbrent les esprits, les prêtres modernes, les prêtres qui se sont dévoyés dans l'œcuménisme, dans le relativisme, les prêtres de Vatican II. Vous n'écouterez pas les prêtres qui filtrent la lumière, les prêtres fiers d'être ralliés à la Rome menteuse et trompeuse. C'est pour cela que nous vous disons qu'il faut ne pas fréquenter les milieux dans lesquels la lumière est tamisée. C'est dangereux. Vous me direz, mais ces prêtres disent la messe selon le rite traditionnel. Ce sont des bons prêtres. Qu'ils aient bonne volonté, je n'en doute pas, mais il faut absolument qu'ils transmettent une lumière pure, une lumière franche, et non pas une lumière tamisée, triée. Comment les reconnaîtrez-vous ? À leurs fruits. Ne vous inquiétez pas s'ils coupent, s'ils taillent, s'ils émondent. C'est dans l'Écriture sainte, cela, c'est même dans l'Évangile. Ce qui compte, ce sont les fruits qu'ils font porter à l'arbre. Mais quand vous avez trouvé des prêtres qui transmettent la lumière pure, franche, comme était Mgr Lefebvre, comme a été Mgr Williamson, alors ceux-là, écoutez-les, mettez en œuvre ce qu'ils vous disent, ne leur demandez pas plus que ce qu'ils vous disent, et même si vous ne comprenez pas pourquoi ils ont raison, sachez en voyant leurs fruits qu'ils ont raison. Je vous ai promis de vous parler du Saint-Esprit pour terminer. Le Saint-Esprit, concrètement, se donne à nous par la méditation des mystères du rosaire. Souvent, il vous apportera la réponse que vous n'avez pas reçue par ailleurs. Plus souvent, il vous apportera la paix pour mettre en œuvre les réponses masculines que vous avez reçues. Et, sinon, il vous enverra quelqu'un pour vous donner la réponse. Saint Paul ne donne qu'une condition pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, c'est de ne pas le contrister. Mesdames, si vous êtes conscientes de vos limites, si vous êtes généreuses, et si vous cherchez la lumière, soyez absolument certaines que le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, vous enverra un Abraham pour guider votre route. Si au contraire vous prétendez avoir toujours raison, si vous discutez toujours, si vous faites prévaloir vos émotions, alors il vous sera très difficile d'entendre le Saint-Esprit et de le suivre. Un dernier mot, cette fois-ci pour les hommes. Époux, père, grand-père, grand frère et même petit frère, soyez des hommes. C'est-à-dire non pas des gens qui jouent au rugby, au football ou que sais-je encore. J'ai connu des religieux qui, pour faire des hommes, organisaient des camps au Mont-Blanc ou même faisaient monter l'Etna sous la chaleur de la Sicile. C'est pas ça qui fait des hommes. Et ce que saint Paul vous demande, messieurs, c'est d'aimer la femme, et l'aimer, c'est comprendre ce qu'elle attend de vous et ce dont elle a besoin et qu'elle ne peut recevoir que de vous. Mais bien, chers frères, la femme qui est le modèle des femmes, Satan a inspiré à Léon XIV de ternir sa lumière en déclarant qu'elle n'était pas co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas suivi l'homme Jésus-Christ, qu'elle n'avait pas fait fructifier dans son amour le sacrifice que le Christ lui a donné, comme un trésor pour le couver dans l'amour. Et ce même Léon XIV a osé dire qu'elle n'était pas médiatrice de toute grâce, alors qu'une vraie mère a cette charge extraordinairement belle de calmer les impressions de ses enfants, les émotions de ses enfants, pour les soumettre à la raison du Père et de Dieu. Marie, co-rédemptrice, priez pour nous. Marie, médiatrice de toute grâce, sauvez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.